Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et c'est avec Jean-Pierre Foultier, évidemment, que nous faisons ce voyage européen. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Ulysse, il y a 2 semaines, Roméo et Juliette, la semaine dernière, alors quelle figure de l'imaginaire européen va nous accompagner aujourd'hui?
Je vais la laisser découvrir à nos auditeurs et à vous à travers ce court extrait.
Oh, comme elle est belle! Vous avez déjà vu une robe aussi merveilleuse? Et regardez, des pantoufles de verre! Oh, c'est comme un rêve magnifique qui se réalise.
Oui, ma jolie, mais comme tous les beaux rêves, j'ai bien peur qu'ils ne puissent durer éternellement. Dès que minuit sonnera, il te faudra...
Minuit? Merci.
Oh, attends, ne t'emballe pas. Il faut que tu comprennes, ma chérie. Au 12e coup de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant.
Oui, j'ai compris, mais jamais je n'en aurais espéré autant.
Va, mon petit cœur. Il est tard. Ne perds pas de temps. Sauve-toi vite. La fête t'attend. Ris, amuse-toi. Danse, sois gaie. En route, ma belle, et fouette cochée.
Tout le monde a reconnu, bien sûr, Cendrillon. Eh oui, à travers cet extrait d'un dessin animé réalisé en 1950 par l'américain Disney. Le dialogue entre la pauvre servante et la bonne fée qui, de sa baguette magique, lui a fabriqué un carrosse à partir d'une citrouille, des chevaux à partir de souris, ainsi qu'une robe somptueuse et les fameuses pantoufles de verre. Tout ceci pour se rendre au bal où le prince tombera, bien sûr, irrésistiblement amoureux d'elle.
Faut dire qu'elle était belle, hein. Alors question, pourquoi vous avez choisi ce personnage de Cendrillon?
J'ai hésité un temps entre Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au Bois Dormant ou même la Petite Sirène.
Vous préférez les blondes, c'est ça?
C'est ça. C'est ça. Ce que je voulais, en tout cas, c'est une figure féminine des contes de fées. Ces histoires pour enfants qui appartiennent au registre du merveilleux. Un genre littéraire qui, s'il n'est pas strictement européen, s'est imposé en Europe, surtout à partir du XVIIIe siècle, et a fait l'objet, nous le verrons, de très nombreuses interprétations. Le personnage de Cendrillon est probablement celui qui a connu le plus de popularité en Europe et qui a suscité le plus grand nombre d'adaptations et de versions. On en compterait aujourd'hui plus de 500, certains disent même des milliers. Je n'en évoquerai ici que quelques-unes. En dehors du dessin animé de Walt Disney avec lequel nous ouvrions cette chronique, on peut citer 2 opéras du 19e siècle, la Cenerentola de l'italien Rossini en 1817 et la Cendrillon du français Jules Massenet en 1895. Un demi-siècle plus tard, c'est le russe Prokofiev, dont la semaine dernière nous entendions la musique du ballet Roméo et Juliette, qui écrira un autre ballet, Cendrillon. Plus près de nous, c'est la transposition en comédie musicale et dans un cadre contemporain qu'en a fait en 2002 l'auteur québécois Luc Plamondon avec Cindy, Cendrillon moderne, interprété par la chanteuse Lame.
Et même sur les réseaux sociaux, je crois que sur Disney+, il y a d'autres adaptations encore plus récentes.
C'est
donc
possible.
On n'a que l'embarras du choix. Mais l'histoire de Cendrillon, elle est, je suppose, identique dans toutes ces adaptations?
Oui, à quelques nuances près. Si vous le souhaitez, je peux vous en rappeler l'essentiel. Cendrillon, c'est une belle demoiselle de bonne famille, mais maltraitée par son affreuse belle-mère. C'est ainsi qu'elle se trouve assignée aux travaux domestiques les plus ingrats. Ce qui va être le moteur du récit, c'est l'invitation faite par le prince aux jeunes filles de la contrée d'assister à un bal au cours duquel elles pourront trouver, si l'on ose dire, chaussures à leurs pieds. La pauvre Cendrillon ne peut espérer y assister parce que trop mal vêtue. Sauf que la bonne fée, sa marraine, d'un coup de baguette magique, l'enverra à ce bal dans le plus beau des équipages et dans la plus belle robe, nous l'avons vu. Le prince, comme il se doit, en tombera amoureux, sans savoir qui est cette charmante jeune fille qui, en quittant le bal tardivement, a perdu une de ses pantoufles de verre. Aussi annonce-t-il qu'il épousera la jeune fille à qui cette pantoufle ira. On imagine que ça ne pourra être que Cendrillon.
Ne spoilons pas la fin quand même. On a parlé de la version de Disney, mais qui est l'auteur vraiment de ce conte de fées?
Des sources le font remonter jusqu'à la Chine ancienne, où une histoire semblable avait été écrite 8 siècles avant notre ère. On en retrouve également dans l'Antiquité grecque et à Rome, mais la version qui a été écrite en 1697 par le français Charles Perrault, l'auteur aussi du Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, etc., en est incontestablement la plus connue. C'est cette version, disons plutôt rose, qu'a adopté le dessin animé de Disney, celle qu'en ont fait les frères Grimm, les auteurs allemands par ailleurs de Blanche-Neige et d'Hansel et Gretel, est nettement plus sombre. Alors que chez Perrault, Cendrillon accorde son généreux pardon à ses horribles demi-sœurs, chez Grimm, elles finissent les yeux crevés par des oiseaux.
Ça plaisait moins à Disney. Ça veut dire que ces contes, ils peuvent être interprétés de façon différente finalement.
Et ils n'ont pas manqué de l'être. On leur attribue traditionnellement une portée morale, principalement au service de l'éducation des jeunes filles. Comme celle un peu primaire de Cendrillon, voilà, je vous la livre. Il ne faut pas se décourager, car un jour notre heure de gloire viendra. Il ne sert à rien de lui courir après, car plus on court, plus elle se sauve. Ou bien celle, tout aussi simple, du Petit Chaperon Rouge, qui invite les petites filles à se méfier des inconnus. Ou encore celle de Peau d'Âne, qui réaffirme l'interdiction de l'inceste. Celle de la Reine des Neiges, je crois que vous aimez bien Sébastien.
Ah, c'est ma préférée.
Et que l'amour triomphe de tout.
Je vous chanterai la chanson à la fin de la chronique.
D'accord. Mais dans l'Europe du XXe siècle, les théories héritées des travaux de l'Autrichien Sigmund Freud en ont heureusement et profondément modifié la lecture. C'est le cas de Psychanalyse des contes de fées, publié en 1976, l'ouvrage le plus célèbre du psychanalyste Bruno Bettelheim, autrichien lui aussi, mais qui ira vivre aux États-Unis à sa sortie des camps de concentration nazis. Il y écrit notamment: tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité. Le conte de fées est donc un outil au service de l'inconscient. Selon lui, les enfants ont besoin de fantaisie non seulement pour s'amuser, mais aussi pour développer leur personnalité. Si on leur raconte les épreuves et les échecs des héros des contes de fées, ils pourront mieux faire face aux épreuves et aux échecs qui les attendent dans la vie.
Bon, et est-ce qu'on a encore fait d'autres lectures possiblement de ces contes de fées ?
Oui. Certaines sont d'inspiration chrétienne, le conflit entre le bien et le mal par exemple, ce dernier étant à la fin toujours puni. D'autres au contraire sont très, disons, sexualisés. D'autres encore franchement ésotériques. Une qui m'a paru originale, c'est une lecture féministe qui met en avant le complexe de Cendrillon. Le désir inconscient chez certaines femmes d'être prise en charge par un prince charmant, bien entendu, et de renoncer de ce fait à toute ambition personnelle.
Ça va loin.
Voilà pour ce tour d'horizon des contes de fées et de Cendrillon, qui en est une des principales héroïnes. Une catégorie littéraire souvent véhiculée de façon orale, pour aider les petits à s'endormir par exemple, qui tient toutefois une place importante dans la culture européenne par son caractère éducatif, voire initiatique. Voilà, la semaine prochaine, je vous présenterai une autre figure, mais beaucoup plus sombre et masculine cette fois, de l'imaginaire européen.
Très bien, le temps pour moi de vous chanter Libéré, délivré, mais on me dit qu'on n'a plus le temps à l'antenne, alors je vais faire ça entre nous, simplement.
Bah, bien sûr, oui.
Le générique étant arrivé, donc on se dit nous à la semaine prochaine.
Alors, à la semaine prochaine, Sébastien.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain, avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63, et sur le www.europe-limousin.eu.